Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce qui est déjà le 8e épisode de cette saison du Curious Live. Avec Léa, nous sommes aujourd'hui en compagnie de nos camarades Fabio, Maxime, ainsi que Marie-Odile Cholet, conseillère municipale à la ville de Dijon, déléguée à l'Observatoire de l'âge et aux relations intergénérationnelles. Alors on le sait, la question de l'âge, elle est aujourd'hui régulièrement au cœur des débats. Et pour l'occasion, cette émission, elle est consacrée aux différents enjeux de communication autour de l'âgisme. Mais pour entrer dans le vif du sujet, justement, des éléments de contexte sont nécessaires pour mieux comprendre la problématique de l'âgisme. Léa, je vous laisse la parole.
Alors à la base, il était défini comme une discrimination visant spécifiquement les personnes âgées, et puis le terme a fini par s'élargir pour englober l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, l'âgisme est défini, selon le glossaire du site Stop Discrimination publié par l'Union européenne, comme un préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'âgisme est la seule discrimination qui n'est pas réprimée par la loi en France.
Alors justement, c'est pas sanctionné et ça entraîne par ailleurs un grand nombre de clichés, d'idées préconçues. Vous pouvez nous en dire davantage à ce propos ?
Alors parmi les clichés les plus récurrents sur les jeunes, on retrouve notamment « les jeunes sont feignants » ou encore « ils ont un problème avec l'autorité ». Et en ce qui concerne les personnes plus âgées, les idées qui reviennent, elles, le plus souvent, sont le manque de dynamisme, l'inaction ou encore le fait de ne pas maîtriser les nouvelles technologies.
On le voit, il y a beaucoup de discriminations aujourd'hui qui sont basées sur l'âge et qui se produisent au moment de la recherche d'emploi surtout. En ce qui concerne les personnes plus jeunes, ce sera un manque d'expérience qui sera évoqué. Alors que du côté des personnes plus âgées, on mentionnera notamment une absence de dynamisme ou encore l'arrivée prochaine de la retraite. Léa, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement ?
Oui, bien sûr. Alors, selon le baromètre sur la perception de la discrimination dans l'emploi, consacré à la jeunesse et publié par la défenseure des droits Claire Hédon, 37% des jeunes âgés de 18 à 34 ans seraient victimes de discrimination à l'embauche. Et l'âge est un facteur qui ressort comme l'un des principaux motifs de discrimination. Avec des discriminations donc à l'encontre des jeunes, mais aussi à l'encontre des aînés. Pour lutter contre cela, la ville de La Roche-sur-Yon a notamment réalisé une campagne de com pour faire évoluer les mentalités sur la notion de vieillissement. Sur ses affiches, des photos de seniors avec un slogan accrocheur, certifié engagé, certifié compétent ou encore certifié dynamique.
Cet exemple de campagne, il a été réalisé en France, ce qui démontre que le chemin est encore long. Mais Maxime, au niveau international, on en est où actuellement, au juste ?
On n'est vraiment pas très avancé, surtout que ce problème concerne un très grand nombre de pays, à tel point que l'Organisation Mondiale de la Santé s'est emparée du sujet. Si l'on se base sur un article qu'ils ont publié en 2021, l'âgisme est un enjeu mondial qui entraîne différents problèmes liés à la santé et parfois même à des décès, tout en coûtant des milliards aux sociétés. Pour médiatiser cette lutte, en 2020, la SFGG, Société Française de Gériatrie et Gérontologie, ainsi que 42 associations dont de 29 pays ont lancé le slogan « Old Lives Matter » pour sensibiliser les citoyens et les médias au respect des aînés.
Un exemple parlant en effet à propos des personnes plus âgées, mais si on en revient au sujet des personnes plus jeunes justement, Fabio, on en est où au niveau des campagnes de communication qui les touchent ?
Alors les campagnes de communication au sujet des jeunes, eh bien, elles ne reflètent pas souvent la réalité. En fait, elles adoptent trop souvent des clichés avec un ton stigmatisant et infantilisant. Par exemple, ça a été le cas avec une affiche réalisée par le service de communication de la ville de Châlons-en-Champagne pour annoncer l'organisation d'un concours de hand spinner. Alors vous savez, ce jouet qui était à la mode en 2017. Alors en fait, l'affiche en question, elle reprenait un grand nombre de clichés qui étaient censés correspondre aux adolescents. Par exemple, il y avait la casquette qui est à l'envers, la mèche tremblante et le sweatshirt. La campagne, en fait, se voulait la plus proche possible de sa cible, mais elle s'est trouvée en fait totalement en décalage avec l'image qu'elle souhaitait renvoyer, à savoir renvoyer les jeunes avec leurs aînés.
Alors pour lutter contre tout ça, tous ces stéréotypes, il y a différents organismes qui existent actuellement, à l'image de l'ANACEJ, donc l'Association Nationale de Conseils d'Enfants et de Jeunes. Ils ont mis en place différentes solutions. Fabio, vous pouvez nous éclairer à ce sujet ?
Alors oui, tout d'abord, il y a la campagne Stop Cliché, dans laquelle on a pu observer des jeunes se prendre en photo, tenant une ardoise où était écrit un cliché à bannir sur les jeunes générations. Depuis plus de 10 ans maintenant, le collectif dénonce l'image des jeunes véhiculée par les médias. Selon Simon Berger, qui est chargé de communication pour l'ANACEJ, les impératifs qu'ont les journalistes, notamment d'urgence, les poussent à faire des raccourcis. Il ajoute également que cela participe à la mauvaise image qu'ont les adultes sur les jeunes, en les voyant à la télévision par exemple.
Et justement, c'est quoi juste l'impact que ça a sur les jeunes ?
On observe en fait une désolidarisation des jeunes par rapport aux canaux traditionnels comme la presse ou la télé. Pour les remplacer, les jeunes se tournent vers les réseaux sociaux ou des plateformes comme YouTube, Twitch ou encore Discord. Alors toujours selon Simon Berger, les jeunes ne vont pas s'intéresser aux médias traditionnels si ces derniers en fait ne viennent pas s'intéresser à eux avant. Il appelle alors les journalistes à produire des reportages fidèles à la réalité. Sinon, dans la même lignée, on peut mentionner Salomé Sacquet avec son livre « Sois jeune et tais-toi », sorti l'année dernière en réponse à ceux qui critiquent la jeunesse.
Un grand merci à vous Fabio pour ces précisions. Alors Léa, je me tourne à nouveau vers vous. Dans cette même optique, de quelle manière est-ce que vous pensez que les médias peuvent réconcilier les jeunes avec leurs aînés ?
Alors il est important dans un premier temps de former les journalistes déjà, et puis les communicants aussi, pour éviter tout malentendu ou tout cliché. Et c'est essentiel de les encourager à travailler en lien avec des seniors ou des personnes plus jeunes quand le sujet les concerne, afin de ne pas les offenser et d'obtenir des retours constructifs pour une représentation équilibrée de toutes les générations. Et puis il y a un exemple qui me vient en tête justement d'un journaliste qui a réussi à réconcilier les jeunes avec les médias traditionnels. C'est Hugo Travers, qui est connu sur internet sous le nom d'Hugo Décrypte et suivi par plus de 2,5 millions d'abonnés sur YouTube et 3 millions sur Instagram. Alors il prouve grâce à son contenu que les jeunes ne sont en réalité pas désintéressés des informations, mais qu'ils souhaitent être davantage respectés et compris par les médias.
Alors justement, dans cette perspective de passerelle entre les générations, on a différents noms évidemment qui nous viennent en tête. L'un des plus connus, c'est sûrement Edith Piaf, qui se retrouve régulièrement en tendance sur les réseaux sociaux grâce aux internautes qui mixent, qui remixent ses titres à ceux de chanteurs actuels, ou qui se retrouve encore au cœur de l'actualité, alors que la chanteuse Aya Nakamura est pressentie pour réinterpréter l'un de ses titres durant la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques. Mais dans cette idée d'une réelle collaboration entre jeunes et aînés, un chanteur à la longévité exceptionnelle a beaucoup contribué à ce relais avec la nouvelle génération, c'est Charles Aznavour. Le grand Charles, qui aurait fêté ses 100 ans cette année, est connu pour avoir partagé la scène avec énormément de jeunes artistes et également pour avoir mis en avant de nombreux rappeurs. Alors en guise d'hommage, on propose d'apprécier dès maintenant sur RCF en Bourgogne l'un de ses plus grands tubes, Formi Formidable. A tout de suite.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, love you. I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I...
C'est le MAG sur RCF en Bourgogne avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Flavien Bert.
Nous sommes de retour dans ce numéro du Curious Live dédié aux enjeux de communication autour de l'agisme. Alors, on mentionnait justement avant la pause la question des liens qui peuvent exister au travers des différentes générations, entre jeunes et aînés. Pour prolonger la discussion, on est aujourd'hui en compagnie de Marie-Odile Cholet, conseillère municipale à la ville de Dijon, déléguée à l'Observatoire de l'âge et aux relations intergénérationnelles. Marie Odile Cholet, bonjour. Un grand merci d'être avec nous en plateau. Ma première question, comment adapter sa communication à toutes et tous pour que chacun se sente inclus, sans stigmatiser en fonction de l'âge?
Eh bien, bonsoir. Je vais commencer par une citation attribuée à Einstein, qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc je trouve que c'est un beau défi qu'il nous lance en disant ça. Et en même temps, ça nous met en face d'un principe de réalité, parce que les représentations sociales autour de l'âge, en particulier en ce qui me concerne autour des plus âgés, des aînés, c'est souvent un noyau dur qui est assez tenace. Et on s'y confronte, nous, dans nos travaux et nos projets, on s'y confronte régulièrement. Donc je vais dire que si communiquer, c'est mettre en commun, alors cherchons du commun. Communiquer, c'est aussi essayer de se comprendre malgré nos différences et, disons plutôt, avec nos différences. Alors, je vais prendre deux exemples sur le poids des mots. Par exemple, papy, mamie. Bizarrement, à partir d'un certain âge, pas forcément défini, je sais des critères obscurs d'ailleurs qui agissent pour qu'à un moment donné, on se trouve interpellé, appelé, assigné à une place de papy et de mamie, selon le genre évidemment. Donc je trouve que ça peut paraître comme ça assez surprotecteur et bienveillant, probablement. C'est probablement l'intention initiale. Mais moi je questionne cette systématisation de l'appellation papy-mamie. Je trouve que cette appellation, enfin ce vocable, pour moi, est très 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 réducteur. D'abord, les personnes concernées ne sont pas forcément grands-parents. La place assignée ne leur convient pas forcément. Et puis surtout, ça évacue insidieusement différentes dimensions. Une dimension historique parce que les personnes ont une histoire très longue dans la succession des générations et leur histoire personnelle. Ça évacue aussi la notion de citoyenneté. C'est comme s'ils perdaient leur statut de citoyen, de pouvoir social. Ça évacue la sexualité, qui est toujours un sujet tabou en ce qui concerne les personnes âgées. En somme, ça évacue la complexité humaine. Voilà, ça c'est un premier exemple. Je pense que ça mérite réflexion pour ceux qui l'utilisent un petit peu trop systématiquement. Je prends un autre exemple, si j'ai encore le temps. C'est la perte d'autonomie. C'est une injonction gouvernementale de lutter contre la perte d'autonomie, ce qui est une très bonne chose, évidemment. Simplement, ça centre à la fois sur la notion de perte, donc de déficit, et puis en même temps sur une dimension médico-sociale. Donc ça oriente le regard, d'une certaine manière, sur des déficits physiques et mentaux, cognitifs, liés au vieillissement, et sur les besoins en suppléance et en soins. Or, là aussi, c'est extrêmement réducteur, et en plus, c'est pas très rassurant de devenir vieux quand on ne pense finalement au vieillissement que sous l'angle des déficits. Si je dis maintien de l'autonomie, ou si je dis encore mieux développement de l'autonomie, et pourquoi pas en avancer en âge, ça donne un tout autre regard sur le vieillissement d'une personne ou d'un groupe social. Communiquer sans stigmatiser, c'est aussi donner la parole, donc écouter, chercher à comprendre la personne, valoriser l'expérience. Quelle richesse quand même! On a vieillir est une richesse, vieillir est une chance puisqu'on a un allongement de l'espérance de vie qui ne cesse de, voilà, de s'allonger. Donc valorisons l'expérience par des transmissions croisées, on le verra un petit peu plus loin. Nous avons besoin de vous et réciproquement, vous avez besoin de nous. C'est aussi reconnaître les paradoxes de notre société en ce qui concerne les seniors qui font vivre le tissu associatif dans les territoires. Sans eux, pas de tissu associatif quasiment. Et pourtant dans une société qui les rend plutôt invisibles, pas assez montrables, pas assez désirable, sauf exception, Charles Aznavour par exemple, improductif, donc à charge économiquement, et cependant cible privilégiée du marketing. La silver economy a des belles heures devant elle, Plus finement, il y a aussi à s'entendre sur un rythme. Vous avez remarqué que les plus jeunes, les générations YZ, voilà, parlent très vite. Donc je trouve qu'il y a un rapport au temps qui est problématique dans les relations entre les âges. Plus j'ai de temps devant moi, plus je suis pressée et plus le temps qui me reste s'amenuise, plus je vais prendre le temps et le temps de vivre. Voilà, je pense que j'ai un peu répondu. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais à votre question.
Un immense merci à vous pour ces précisions. On se rend compte en effet que la question des stéréotypes sur les personnes âgées, elle mériterait d'être au cœur des débats, ou en tout cas davantage mise en avant. Maxime, il me semble que vous avez des éléments pour compléter ce qui vient d'être dit.
Alors absolument, moi j'aimerais surtout revenir sur le fait que des moyens de lutter contre les discriminations en fonction de l'âge, on en a énormément aujourd'hui. Voilà, tout d'abord un premier exemple, il va être crucial d'inclure sur tout type de visuel des personnes d'âge différent afin de refléter la diversité de la société, bien sûr. Ou bien sensibiliser et éduquer le public ainsi que les professionnels de la communication et même d'autres endroits comme le journalisme, ça va être tout aussi essentiel. Une étude du cabinet Occurrence pour Diversity Days révèle qu'aujourd'hui plus de la moitié des salariés pensent que la diversité n'est pas toujours une notion bien maîtrisée. D'où la nécessité d'une meilleure communication et une meilleure éducation sur ces enjeux, tout simplement.
Et justement, qu'est-ce que vous recommandez du point de vue des entreprises ?
Alors, il est impératif de ne pas et de ne plus segmenter en fonction de l'âge. En effet, une étude Kantar Media de 2022 démontre que cibler les consommateurs en se basant sur leur expérience de vie et leur comportement peut être jusqu'à 4 fois plus efficace que de se baser uniquement sur leur âge. Donc déjà ça doit nous permettre d'éviter de tomber dans les stéréotypes. Et puis l'utilisation de plateformes comme Facebook, Instagram ou même YouTube a considérablement augmenté chez les plus de 65 ans ces dernières années. Ça montre l'importance de ne pas présumer des comportements en fonction de l'âge. Si on veut un exemple de bonne pratique, la popularité d'influenceurs plus âgés tels que Studio Daniel peut également contribuer à une représentation plus diversifiée dans les médias et dans la publicité. De la même manière, la présence au premier rang, par exemple, d'un récent défilé de la marque Schiaparelli, de la comédienne de 77 ans Marissa Berenson, petite fille de la créatrice, ou encore la mise en avant d'une autre comédienne, Maggie Smith, âgée de 88 ans, en tant qu'égérie de la marque Loewe. Ça symbolise bien sûr la volonté pour ces enseignes de prolonger ce lien historique et de mettre sur le devant de la scène des ambassadeurs tranchant avec nos habitudes.
Comme quoi, là, j'ai parfois juste dans la tête. Merci Maxime pour ces précisions. Or, afin de conclure cette émission, je me tourne à nouveau vers vous, Marie-Odile Cholet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les initiatives mises en place à la ville de Dijon pour contribuer à une société intergénérationnelle ?
Oui, bien sûr. Dijon est ville amie des aînés depuis 12 ans. C'est le maire de Dijon, François Rebsamen, qui était d'ailleurs le président du réseau Ville amie des aînés. C'est lui qui a été à l'initiative. Dijon est ville amie des enfants aussi. Et moi, je dirais que Dijon est une ville pour tous les âges. Alors, je vais citer quelques réalisations et quelques exemples. Donc, nous avions, avec une classe de première du lycée Eiffel et un groupe de seniors, ils avaient travaillé ensemble, ils ont fait une proposition sur une journée intergénérationnelle dans un parc. Donc, ils l'ont dit, nous l'avons fait. Nous avons créé les conditions avec différentes animations et activités. Le but, c'était la finalité de la journée, c'était vraiment non pas de faire une kermesse, mais de partager des activités. Donc, les activités avaient été choisies pour que tous les âges puissent participer, depuis les enfants de la crèche jusqu'aux résidents d'EHPAD, assez dépendants d'ailleurs. Et ça a été au-delà de nos espérances, ça a marché au-delà des espérances, la mayonnaise a pris, c'était extraordinaire de partage culturel, sportif, jeu, blind test, quiz, enfin beaucoup, beaucoup d'activités, danse, chant. Il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées en intergénérationnel entre des structures et des écoles, ou voilà, entre crèches et EHPAD par exemple, hein, c'est assez classique. Je citerai également en intergénérationnel les aidants numériques, il y en a dans toutes les maisons d'éducation populaire dans les quartiers, et puis il y en a à la maison des seniors. Je citerai également le travail du conseil municipal des enfants, avec lesquels il y a vraiment un travail de fait intéressant de ce point de vue-là, entre autres. Hein, voilà. Bon, et probablement beaucoup d'autres choses encore. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert, donc je vais en rester là, mais nous y travaillons activement. Et je voudrais simplement faire une incursion, une réflexion. Quand on dit intergénérationnel, moi je questionne ce qu'il y a dans le inter, c'est-à-dire dans le entre. Que voulons-nous, les uns et les autres, mettre dans ce entre? Quelle valeur, quelle finalité, quel sens? Parce que c'est pas seulement mettre en présence des personnes, c'est beaucoup plus que ça, et c'est des vrais projets très à approfondir, quoi. Merci beaucoup de votre écoute.
Un sujet à développer, en effet. Merci beaucoup, Marie-Odile Cholet, de nous avoir rejoint en plateau aujourd'hui. Merci également à vous, Maxime, Fabio et évidemment Léa pour ce débat très riche. Un débat que vous pourrez retrouver en podcast sur le site rcf.fr, c'est le mag étudiant Massy, et au sein de l'article consacré sur notre Curious Blog, junioragencemassy.fr/blog. Enfin, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Curious Live dédié à la communication inclusive. Très belle soirée à toutes et à tous. 18h30 sur RCF en Bourgogne, c'est l'heure de votre journal local.